Okay, ouais, comme Jonathan a dit, l'exposé c'est sur la prière et le combat spirituel. J'ai beaucoup de choses à dire concernant ce sujet. Donc je vais commencer tout simplement par vous apprendre comment chasser les mauvais esprits en fait. On va commencer là et ensuite on va discuter la prière. Normalement, moi, je commence par l'ail. Pour des mauvais esprits. Ça repousse pratiquement toutes les variétés de démons et on peut en acheter facilement dans des épiceries et sur des marchés. Je plaisante pas. On commence par ça. Si ça ne marche pas, j'apporte souvent une croix sur moi aussi. C'est efficace. On peut acheter des croix dans des librairies catholiques avec ou sans la petite silhouette de Jésus. C'est comme vous voulez. En fait, moi, je préfère fabriquer mes propres croix avec deux bâtons et un morceau de fil. Les enfants aiment faire ça aussi, donc c'est pratique. Mais faites bien attention aux proportions des bâtons afin de construire une belle croix latine. Ça, c'est le plus efficace pour chasser des démons, en fait, les croix latines. Ensuite, on peut passer de la musique chrétienne aussi, ça marche bien. Mais le volume doit être. Je plaisante pas, c'est sérieux ça. Pourquoi c'est pas grave. Le volume doit être assez fort parce que les démons n'ont pas d'oreilles physiques comme nous, en fait. Et donc, ils entendent plutôt à travers les vibrations. Donc, ça, c'est important. Étant donné que je suis un expert sur ce genre de choses, les gens me posent souvent des questions pour savoir quel genre de musique chrétienne il faut utiliser, quel artiste et tout ça. Moi, je préconise quelque chose en anglais, en fait, parce que les Américains produisent beaucoup plus de musique chrétienne et il est plus probable que les esprits en reconnaissent les paroles. Mais sinon, la musique en grec ou en hébreu aussi, ça marche très bien, c'est des langues bibliques, donc ça chasse des démons. Pour des problèmes démoniaques très sérieux, ou pour des attaques en masse, ça c'est un problème des fois aussi, je suggère, c'est juste une suggestion, mais je suggère une fiole d'eau bénite en provenance du Vatican. C'est efficace aussi, c'est utilisé en dernier recours en fait, mais ça sert à faire peur aux démons, voire même à leur brûler la peau, des fois, leur peau spirituelle bien sûr, mais puisque l'eau bénite agit comme un genre d'acide en fait sur les mauvais esprits. Donc voilà, des questions?
Merci.
On peut prier et manger peut-être. Non, je plaisante. Plus sérieusement, le combat spirituel est une réalité de la vie chrétienne. C'est vrai, on a besoin d'avoir les bonnes armes pour ce combat. Et donc, je veux vous parler aujourd'hui d'un texte bien connu qui nous renseigne sur ces armes et sur la place de la prière, bien sûr, dans ce domaine. Ça, c'est le sujet pour ce week-end, la prière, donc on va parler de ça. Alors, avant de lire Éphésiens 6, ça c'est le texte, je voudrais vous faire part de quelques pensées de C.S. Lewis par rapport au combat spirituel et à l'action démoniaque. Dans l'introduction de son livre Tactique du diable, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très bon livre, il nous avertit contre deux tendances. La première tendance consiste à nier l'existence des démons et des réalités spirituelles. Et la deuxième tendance consiste à développer une curiosité excessive en ce qui concerne le monde des démons. Et Satan est tout autant satisfait avec ces deux options, en fait. On doit donc faire attention dans ce domaine. Alors, quelque chose sur lequel je vais revenir souvent, c'est que le combat spirituel, comme tous les domaines de la vie chrétienne, doit être centré sur Dieu, sur Christ, sur l'Évangile. Ça, c'est très important. Quand on parle de la prière dans le domaine du combat spirituel, ce n'est pas nous qui sommes au centre. De même, ce ne sont pas les forces spirituelles ou Satan ou les anges qui sont au centre. On doit rester centré sur l'œuvre du Christ. C'est très important. Alors, dans quelques instants, on va étudier Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, non, 10 à 10 à 20. Mais avant tout, je voudrais souligner brièvement ce que la Bible dit à propos du domaine spirituel et des activités démoniaques, et ensuite à propos de la souveraineté de Dieu et des limites des démons. C'est important de commencer là. Concernant le domaine spirituel, on est tous d'accord sur le fait que les démons existent. C'est un fait. Il y a pas mal de références bibliques, surtout dans des évangiles, qui parlent de la présence et de l'activité des démons. Aussi, je pense à d'autres textes aussi. 2 Pierre chapitre 2 verset 4 parle du fait que certains anges ont été séparés de la présence de Dieu à cause de leur rébellion. Apocalypse chapitre 12 parle de l'activité du dragon et d'un tiers des étoiles qui se sont joints à lui pour l'aider dans le mal. Ce qui fait vraisemblablement référence à un tiers des anges qui sont déchus et qui suivent Satan. Nous savons que les démons étaient au départ des bonnes créatures de Dieu avant leur rébellion, parce que Dieu avait déclaré que toute sa création était bonne, ce qui inclut tous les anges de Dieu. On a tendance à imaginer Satan comme un drôle de lutin qui porte un pyjama rouge, des fois, qui nous aide à passer de bons moments en nous incitant à faire des bêtises ou des choses comme ça. Mais 2 Corinthiens chapitre 11 parle de Satan qui se déguise en ange de lumière. D'accord? Il est menteur. Il est le maître de la tromperie selon Jean chapitre 8 verset 44. Son but est de détruire ce que Dieu a construit. Satan, qui en hébreu veut dire adversaire, a provoqué le premier péché de l'homme dans Genèse chapitre 3. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 3 dit que le diable pêche dès le commencement, ce qui veut dire dès le commencement de son activité sur terre parmi les hommes. D'accord? Et depuis la chute de l'homme, Satan n'a pas arrêter son activité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte à rester sobre et vigilant par rapport à l'activité du diable, parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est aussi pourquoi Paul nous exhorte à tenir ferme contre les manœuvres du diable dans Éphésiens chapitre 6. Alors peut-être que le péché trouve son origine en Satan, le diable, mais ça n'enlève pas notre responsabilité, notre culpabilité. Okay? Ça, c'est important de comprendre. La Bible affirme que nous sommes responsables de nos péchés. Bien sûr, l'influence des démons est peut-être grande et répandue dans le monde, mais on ne peut pas transférer la culpabilité aux démons à chaque fois qu'on pêche. D'accord? L'influence, ça existe, mais on est coupable aussi, on est responsable. Alors, je vais mentionner deux, trois choses concernant la souveraineté de Dieu et les limites des démons. On est d'accord que Satan et ses démons existent, qui sont présents dans le monde, mais quelles sont les limites de leur pouvoir surnaturel? Selon le psaume 8, les anges, y compris ceux qui se sont rebellés contre Dieu, possèdent un pouvoir supérieur à celui des hommes. D'accord? C'est dans le psaume 8. Luc 20, verset 36, nous indique que les anges sont immortels et qu'ils ne se marient pas ni ne se reproduisent. D'accord? Ça confirme le fait que les anges et les démons sont des êtres spirituels et des êtres puissants aussi. Mais il faut faire attention avec notre imagination. On a tendance à imaginer les anges comme étant un peu plus puissants que l'homme et un peu moins puissants que Dieu. J'en attends à mentionner ça un peu aussi ce matin. Mais sur une échelle de 1 à 10, on se représente Dieu avec une puissance de 10, par exemple, quelque chose comme ça, les anges avec une puissance de 5 ou 6, les hommes avec une puissance de 3 ou 4, quelque chose comme ça. On se dit que les démons posent des problèmes à Dieu, mais que normalement, avec plus ou moins de difficultés, Dieu peut les vaincre. Mais quel est le problème avec ce genre d'idées? Le problème se trouve dans le fait qu'on ne peut pas comparer la puissance des anges avec la puissance de Dieu, leur créateur. C'est pas cette idée d'un dualisme cosmique ou quelque chose comme ça. J'étais où dans les notes? Ah, j'ai retrouvé ma place. Dieu est éternel, ça c'est important de comprendre. Les démons sont créés. Dieu est infini, les démons sont finis. Dieu est tout-puissant, les démons sont limités. D'accord? Quand on lit Ésaïe chapitre 14 ou d'autres textes qui font référence à la chute de Satan, on ne doit pas s'imaginer que Satan et ses anges représentent une menace pour le trône de Dieu. Ce n'est pas du tout le cas. Dieu, le Créateur, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, a toute autorité sur les démons. Leur existence et leur activité sont dans ses mains. Et le Christ Jésus, qui a exercé son autorité sur des démons à plusieurs reprises, a donné cette autorité même à ses disciples dans les évangiles. Je pense à Luc chapitre 10, verset 20, non pas 28, 18. Je n'ai pas compté à combien de reprises Jésus a chassé des démons dans les évangiles, mais il y a beaucoup de textes qui parlent de l'autorité de Christ sur les mauvais esprits dans les évangiles. Marc chapitre 3, verset 11 nous dit que les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Donc les démons, ils ont reconnu Jésus et leur place dans le monde. Et on voit dans la Bible que les démons ne peuvent pas résister à cette autorité de Christ. D'accord? Je vais ajouter aussi qu'à la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort. Il nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Il a écrasé le serpent de Genèse chapitre 3. Je ne veux pas entrer dans un débat sur l'eschatologie ici, mais selon mon interprétation de Apocalypse chapitre 20, on peut dire que l'influence de Satan depuis la croix est bien limitée. Dans un langage métaphorique, le texte dit que le dragon a été jeté dans un abîme, en fait. Par rapport à son influence sur les nations, il est comme un chien enchaîné, dans un sens. Ça veut dire que la porte est grande ouverte à l'annonce de l'évangile dans le monde. Mais ne pensez pas que ça élimine par conséquent toute activité démoniaque dans le monde. Satan et ses démons peuvent faire beaucoup plus que juste aboyer de façon inoffensive et mordiller nos chevilles comme un petit caniche. Il peut faire beaucoup plus que ça. Satan a été vaincu et ce n'est pas lui qui règne dans ce monde, mais en même temps, il continue de rôder comme un lion, comme on a lu dans ce texte dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Il continue de mentir, il continue d'agir, d'éprouver les chrétiens. Donc, il faut rester vigilant. Alors, on va passer maintenant à ce texte en Éphésiens. Qu'est-ce que j'ai dans des notes ici? Oui, il y a plusieurs textes bibliques qui parlent du combat spirituel, de la prière dans la vie chrétienne, bien sûr. Mais on va aborder ce sujet avec ce texte, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Un très bon texte sur ce sujet. Donc je vais lire le texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez les cuirasses de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Avec une entière persévérance, priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me sont données pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Donc ça c'est Éphésiens 6, 10 à 20. J'ai trois points en fait, trois choses à dire concernant ce texte. On va commencer avec le verset 10 à 13. Dieu nous donne la victoire dans ce combat. On doit rester vigilant, mais pas effrayé, d'accord? Encore une fois, notre succès est basé sur Dieu et sur son œuvre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, dit le texte. Ça ne dit pas fortifiez-vous en vous et par votre force, d'accord? Les pouvoirs spirituels sont plus forts que nous, mais moins forts que Dieu. C'est Dieu la source de notre sécurité et celui qui a vraiment le pouvoir dans ce domaine. Il est important de comprendre que dans ces versets, Paul n'est pas en train d'improviser son discours. Il y a un parallèle direct entre les exhortations de Paul à la fin d'Éphésiens et ce qu'il dit au début de l'épître, le chapitre 1 en particulier. Ces exhortations ne sont pas mises là par hasard. En revanche, l'exhortation de tenir ferme contre les diables est basée sur le fait que nous sommes, selon le chapitre 1 d'Éphésiens, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, que nous sommes élus avant la fondation du monde, que nous sommes prédestinés et adoptés par la volonté parfaite de Dieu qui a donné toute autorité à Christ. D'accord? Ce qui se passe dans Éphésiens 6 a du sens grâce à ce qui se passe dans Éphésiens 1. Le fait que Dieu nous ait donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ veut dire qu'on n'a rien à craindre des principautés, des pouvoirs, des dominateurs et des esprits dans les lieux célestes. Bien sûr, on doit prendre des armes. Bien sûr, on doit rester vigilant contre les diables. Mais notre confiance dans cette bataille vient de Dieu. C'est important. Commencez là. Restez ferme dans le Seigneur. Ça veut dire rester confiant en sa capacité à accomplir tout ce qu'il veut. On n'est pas dans une situation de dualisme cosmique, comme j'ai dit, où le Dieu tout-puissant doit lutter contre le diable tout-puissant qui serait son égal. Dieu est infiniment plus puissant que le diable. On a une énorme puissance de feu à notre disposition, dans un sens. Dieu contre le diable, c'est comme un match équitable. On sait d'avance qui va gagner ce match. Ce serait comme une bombe atomique contre un petit lance-pierre. Qui va gagner pas le lance-pierre, c'est évident. Ce serait comme Jonathan contre moi dans un concours de jeux de mots en français. C'est évident qui va gagner ça. Ce serait comme le cerveau de Christophe face aux énigmes de la physique, en fait. Encore une fois, on sait d'avance qui va l'emporter. La physique n'a aucune chance contre Christophe. Donc, c'est un peu comme ça, la lutte. Dieu a tout le pouvoir, là. On peut, entrer dans le combat spirituel en ayant confiance en notre Dieu. D'accord? Maintenant, aux armes. Le verset 14 à 17. Chaque arme provient de Dieu dans ce texte. En fait, les armes de toute l'armure dans ce texte sont celles de Dieu lui-même. C'est important. Paul emprunte cette image à Ésaïe chapitre 59, où l'on voit Dieu qui se prépare à combattre ses ennemis dans ce texte. Les armes d'Éphésiens 6 ne sont pas les armes du chrétien, d'accord? Ce sont les armes de Dieu employées par les chrétiens, par sa grâce, par la grâce de Dieu. Chaque arme est confiée par Dieu spécifiquement aux chrétiens et à personne d'autre. Dans le film Iron Man, vous connaissez le film, moi non plus, donc c'est pas grave, mais dans ce film, il n'y a que le héros Tony Stark ou le Iron Man dans ce film qui peut porter son armure de super-héros, d'accord? Grâce à un générateur électromagnétique ou quelque chose comme ça situé dans son corps. Personne d'autre ne peut utiliser cette armure puissante et terrible. C'est pareil pour les chrétiens. Les armes de Dieu sont destinées aux croyants et à leur combat contre Satan et ses démons. On n'a pas de générateur électromagnétique dans notre corps, mais on a quelque chose de bien mieux, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Remarquez la façon dont chaque partie de cette armure nous pointe vers l'œuvre de Christ. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chaque truc ici, mentionné ici, mais rapidement on va regarder chacun. On commence par la ceinture de la vérité. La ceinture était un élément en cuir qui servait à protéger les cuisses, normalement. Cette ceinture est associée à la vérité de Dieu dans ce texte. Rappelez-vous que Jésus lui-même est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. On entre dans le combat avec la vérité concernant Christ et son œuvre. D'accord? Ensuite, on met la cuirasse de la justice. Et encore une fois, ça fait référence à la justice de Dieu et pas à la nôtre. D'accord? On ne peut pas s'appuyer sur notre propre justice. Parce que sans Christ, on n'a pas de justice. Au contraire, c'est par la croix que la justice de Dieu en Christ a été attribuée aux élus. D'accord? Sa justice devient notre justice. Donc encore une fois, c'est centré sur Christ, sur son œuvre. Ensuite, on met les chaussures de la paix de l'Évangile, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Vous connaissez ce texte, le messager du bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut. C'est Ésaïe chapitre 52, verset 7. Ensuite, on prend le bouclier de la foi qui sert à éteindre les traits enflammés du malin. Notre protection contre le diable, c'est de faire confiance à Christ, de se fier à son autorité et à ses promesses. Avec le bouclier, il y a aussi le casque du salut qui représente la rédemption qui a été accomplie encore une fois par Christ. Grâce à ce casque, personne, pas même le diable, ne peut nous arracher des mains de Jésus. On lit ça dans Jean chapitre 10, verset 28. Puis on prend l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une arme puissante. C'est l'Esprit de Dieu qui a été envoyé par Christ pour enseigner aux apôtres tout ce qui concerne l'œuvre du Christ. La parole de Dieu a été révélée à travers l'Esprit. Cette parole, nous la recevons grâce à l'illumination intérieure de l'Esprit. Cette épée, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, l'Évangile qui est proclamé dans ce texte. D'accord? Donc encore une fois, toutes ces choses sont centrées sur Christ, sur son œuvre. Ces versets ne nous obligent pas à partir à la recherche de ces âmes. Ils sont déjà disponibles dans la vie de tout chrétien par l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus qui est au centre de tout cet âme, comme j'ai mentionné déjà quelques fois. Le succès dans le combat spirituel ne dépend pas de formules magiques ou d'incantations, des choses comme ça. Mais le succès découle de notre confiance en Christ et de la connaissance que l'on peut avoir de sa parole. L'idée ici, selon le commentateur Peter O'Brien, un très bon commentateur, ce n'est pas de s'adresser à Satan dans un genre de discours ad hoc, dans le but de le faire fuir, d'accord? Par contre, c'est d'annoncer l'évangile auprès de ceux qui sont captifs du péché, parce que c'est par l'évangile qu'ils peuvent être libérés de la domination de Satan et du péché. C'est par l'évangile. Maintenant, on passe à les derniers versets 18 à 20. Et la prière. Nous en arrivons à la fin de cette exhortation sur le combat spirituel et Paul conclut avec quelques commentaires sur la prière et c'est très important ce qu'il dit. Alors, ça c'est. Qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est pas logique. Ça c'est. Ouais, ça c'est important parce que Paul donne plus d'importance à la prière qu'à toutes les autres armes dans ce texte. Ça, c'est important. La prière n'est pas identifiée dans ce texte à une arme en particulier, mais elle concerne tous les éléments de l'armure et tous les aspects de la vie chrétienne. Selon Paul, c'est dans la prière que toutes les autres armes sont employées. L'exhortation à prier au verset 18 est liée directement dans ce discours à l'exhortation à tenir ferme au verset 14. Il répète le mot « tout » trois fois dans ce verset. « Priez en tout temps, avec toutes sortes de prières, pour tous les saints. » Cette exhortation est cohérente avec ce que Paul fait lui-même dans cet épître. Deux fois, au chapitre 1 et 3, Paul prie pour les Éphésiens afin qu'il leur demande de prier pour lui et pour son travail qui consiste à annoncer l'évangile. L'annonce de l'évangile est accompagnée par la prière avant, pendant et après. C'est vraiment une partie de l'annonce de l'évangile. Ce ne serait pas logique de prendre les armes de Dieu sans lui demander son aide pour ce qui concerne leur utilisation. Pour prendre un exemple, de temps en temps, je fais de la pêche avec mes enfants. C'est quelque chose que j'aime faire. Moi, je leur fournis tout le matériel nécessaire. Ils ont toutes les bonnes armes, on peut dire, les bonnes armes pour réussir. Moi, je confie à chaque enfant une carte de pêche, par exemple, une canne à pêche, le fil, les appâts, les hameçons. C'est un mot difficile aussi. Hameçons, etc. Toutes les choses nécessaires. Ils sont bien équipés. Ensuite, on cherche un bon endroit sur le rivage, on s'installe. Et soudain, j'entends, « Papa, aide-moi. Aide-moi. Il y a un nœud dans mon fil. » Ou quelque chose comme ça. « Papa, aide-moi. Mon hameçon est coincé dans un arbre. Papa, l'hameçon est coincé dans ma peau. Papa, j'ai attrapé un poisson et je ne sais pas quoi faire. » Vous voyez, il y a toujours des problèmes comme ça. Il est normal que les enfants aient besoin d'aide avec la pêche, bien qu'ils aient déjà tout le bon matériel. De même, il est normal que les enfants de Dieu aient besoin de l'aide de leur Père Céleste dans le combat spirituel. On doit tout simplement lui demander, d'accord? Quand Jésus nous a appris comment prier dans notre Père, on va étudier ça demain, il a dit, « Ne laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Jésus a bien compris la réalité du combat spirituel. Il inclut ce combat dans son enseignement sur la prière. Alors, j'ai quelques applications. Je vais mentionner 5 ou 6 choses et ensuite on peut bien sûr discuter ça plus. Mais la première chose, et c'est très important, c'est pas très difficile, well, peut-être c'est difficile, mais priez beaucoup. Priez beaucoup. Okay? C'est très clair. Demandez l'aide de Dieu. Basez vos prières sur la parole de Dieu. Priez l'Écriture dans le combat spirituel. Une deuxième chose, restez vigilant. Les influences du diable sont partout dans le monde. Satan est le père des mensonges, comme on a vu dans Jean chapitre 8, verset 44. Par ses tentations, il cherche à piéger les chrétiens. Donc il faut rester vigilant. Troisième chose, ne vous intéressez pas trop au diable. Ça, c'est une autre chose. Les démons sont une réalité, mais ce sont des créatures de Dieu aussi. Et la Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Il n'est pas sage, à mon avis, de chercher à en savoir plus que ce que Dieu a voulu nous communiquer déjà dans sa parole. D'accord? Une quatrième chose, on peut faire. Ne sous-estimez pas le diable. Le diable est très content de ceux qui nient son existence. C'est le cas aujourd'hui, je pense, en France, en général. Les gens qui nient l'existence du diable. Parce que s'ils nient l'existence du diable, ils nient aussi d'autres réalités surnaturelles. Des anges, Dieu, d'autres choses comme ça, qui sont importantes. Donc, ne sous-estimez pas le diable. Cinquième chose, en priant, annoncez l'évangile dans le combat spirituel. C'est comme on a vu dans ce texte, c'est vraiment par l'évangile qu'on peut chasser vraiment les démons, les influences spirituelles. Certains théologiens disent qu'il faut affronter le diable verbalement si on a l'impression d'être opprimé par lui. J'ai lu ça à plusieurs reprises dans des livres de théologie. Ils disent qu'il faut parler aux démons, leur poser des questions, leur demander leur nom, entrer dans un débat avec des démons. Et dire salut Satan, comment ça va? Et pas vraiment, mais ce genre de choses. Cette idée, en mon avis, est basée sur le modèle que l'on observe chez Christ et chez les apôtres dans les évangiles. Mais n'oubliez pas que l'accent d'Éphésiens chapitre 6 et d'autres écritures hors des évangiles, les épîtres et tout ça, l'accent est sur l'œuvre de Christ, pas sur des débats avec des démons, des choses comme ça. C'est en annonçant l'évangile, c'est en priant qu'on résiste au diable, aux influences spirituelles. Ne parlez pas aux démons, mais à Dieu. Ça, c'est mon avis. Parlez à Dieu, priez. Quand vous avez l'impression d'être attaqué, priez. Priez l'évangile même. Récitez l'évangile, annoncez l'évangile. Quand vous êtes confronté à des gens tourmentés spirituellement, priez l'évangile pour annoncer l'évangile. C'est dans l'évangile, c'est dans l'œuvre de Christ qu'on peut chasser ces influences. Une sixième chose, je veux mentionner, évitez de vous exposer volontairement à des influences démoniaques. Je sais, c'est presque notre sujet, on peut faire, mais quand on se soumet au péché, c'est au diable qu'on se soumet, dans un sens, c'est-à-dire à l'ennemi de notre âme. En péchant, on s'expose à l'influence du diable dans notre vie. Mais il y a d'autres activités ou pratiques qui ouvrent la porte aux influences démoniaques. À mon avis, c'est comme je dis, un autre sujet. Mais je pense qu'on doit éviter de regarder certains films, comme des films horreur, surtout ceux qui ont pour thème le diable ou les démons, qui font tout un spectacle de leur activité. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Je pense qu'il y a certaines musiques, certaines vidéos qui célèbrent aussi l'activité du diable. Il faut faire attention avec ça. Il n'y a pas de place pour ce genre d'horreur dans la vie chrétienne. Et bien sûr, on ne doit pas être superstitieux non plus. Je ne suis pas en train de dire que Satan et dans les CD ou dans les MP3 ou des choses comme ça. C'est pas le cas. Mais il n'y a pas de raison de s'exposer volontairement aux influences démoniaques à travers la musique qu'on écoute, par exemple, les livres qu'on lit, les films qu'on regarde ou d'autres choses comme ça. La Bible nous appelle à méditer sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, aimable, vertueux, des choses comme ça. C'est Philippiens chapitre 8, verset. Ouais, il n'y a pas 8. 4, verset 8, c'est ça. Pas 8, verset 4, mais Philippiens, ouais, Philippiens 4, verset 8. Donc, je vais arrêter là, en fait, mais on peut discuter plus.